Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Audrey du blog l'atelierbucolique.com et aujourd'hui je reçois Jeannette qui propose une offre de vacances en slow tourisme en Auvergne et plus précisément à Saint-Hilaire. Donc Jeannette a un blog qui se nomme l'Auvergne Slow. Elle nous fait découvrir ainsi son offre pour des vacances au ralenti et éco-responsable. Jeannette, une guide hôte qui saura vous faire découvrir l'Auvergne autrement. Bonjour Jeannette.
Bonjour.
Donc, merci d'être là aujourd'hui pour cette interview. Toi, tu es auvergnate d'origine et tu nous invites à pratiquer le slow tourisme en Auvergne. Pourrais-tu nous présenter ton activité?
Oui, alors merci de l'invitation déjà. Et effectivement, je suis auvergnate d'origine. J'ai aussi travaillé longtemps dans le tourisme, mais plus sur la promotion et la commercialisation des activités d'autres prestataires. Et j'ai eu envie de créer mon activité qui... peut-être sans que j'en ai réellement conscience, c'était la synthèse des constats que j'avais pu faire aussi sur le terrain et de l'amour aussi que j'ai pour ma région qui se prête à un tourisme un peu différent, je pense. Et l'activité que je souhaite lancer est une activité qui est originale dans le sens où elle marie à la fois l'hébergement dans un lieu, mais aussi la proposition d'activités guider. Alors même si le terme de guide et de guidage est assez galvaudé et correspond pas exactement à ce que j'ai envie de proposer, il y en a pas vraiment d'autres qui existent. Donc moi je parle souvent d'expérience ou d'expérience immersive. On peut parler d'éco-tour aussi. Revenons peut-être sur l'hébergement dans un premier temps. C'est un hébergement que je souhaite avec des valeurs éco-responsables. L'idée c'est que les gens puissent bénéficier d'une déconnexion et d'une rupture avec leur quotidien dans ce lieu. J'habite dans un tout petit village de 15 habitants et l'hébergement n'a pas de vis-à-vis avec une vue sur la vallée et la forêt. L'idée, c'est de pouvoir proposer des courts séjours ou des séjours aux personnes et notamment à des couples ou des familles puisqu'on pourra accueillir jusqu'à 5 à 6 personnes en leur proposant d'avoir des activités qui changent un peu de leur quotidien, soit en ma compagnie en qualité de guide, soit des activités qu'ils vont pratiquer sur place. Et pour cela, on leur aura bien préparé le terrain et mis en place des outils.
D'accord. Et pourquoi tu as choisi de proposer des vacances dites au ralenti, orientées vers la pratique du slow tourisme?
Alors déjà, le fait de mettre slow devant tourisme, ça ne devrait pas être utile. C'est dommage qu'on soit obligé de le faire, mais pour moi, c'est une évidence que le tourisme, ça doit être une rupture avec la vie de tous les jours. Mmh. Et comme la vie d'aujourd'hui est plutôt trépidante, et cette rupture-là, elle passe par le fait de ralentir finalement. J'ai trop souvent vu, soit moi en tant que touriste à mes côtés, soit en tant que professionnelle du tourisme dans les demandes qu'on pouvait avoir, des personnes qui étaient dans la consommation effrénée d'activités touristiques, et qui finalement ne rompaient pas avec leur rythme du reste du temps. Je pense que c'est important et qu'il y a aussi une demande forte maintenant pour qu'on propose aux gens et qu'on les, peut-être même on leur donne le coup de pouce, le petit coup de main pour arriver à cette déconnexion. Voilà. Voilà pourquoi moi je suis allée vers le slow tourisme, en plus des valeurs d'éco-responsabilité, l'idée des circuits courts, de travailler ancré dans un territoire.
Alors, tu proposes une chambre d'hôte éco-friendly à Saint-Hilaire. Et est-ce que donc, c'est un hébergement éco-responsable? Est-ce que tu pourrais nous décrire ce lieu d'accueil, les étapes pour la réalisation de ce projet? Est-ce que c'est un projet que tu as réalisé seul dans l'ensemble ou est-ce que tu as fait appel à des organismes extérieurs? Et si tu avais 3 conseils à nous donner pour l'ouverture d'une chambre d'hôte éco-friendly, quel serait-il?
Oui, alors ce lieu, on a choisi sa forme par rapport à des contraintes toutes simples qui sont celles de nos bâtiments, puisque c'est un ancien corps de ferme qui appartient à la famille de mon mari, dans laquelle nous, on est revenus vivre. On a restauré d'abord une première partie qu'on occupe nous, et puis une partie de dépendance agricole sera réservée aux hôtes. L'hébergement va être prêt au printemps. C'est un peu un hybride, puisqu'on n'est pas sur le principe du gîte, dans le sens où c'est pas une petite maisonnette ou un appartement complet, mais c'est plus qu'une chambre d'hôte. Alors, je m'explique. En fait, il y a une grande chambre, une chambre, on va dire, normale pour un couple, de taille normale, une petite pour les enfants. Il y a la place pour 3 couchages dans des lits d'enfants et un lit bébé. qui communique avec celle des parents, donc ça veut dire que c'est forcément le même groupe familial ou d'amis. Donc ces deux chambres sont dotées d'une salle de bain privée et d'une cuisine, pièce commune, on va dire, privée, avec un accès extérieur, toujours lui privatif aussi, qui débouche sur une grande terrasse sur laquelle débouche, nous, notre salon. Et par cette terrasse, il y a un accès au rez-de-chaussée par lequel les gens seront arrivés, se seront stationnés. Ils ont un jardinet qui leur est réservé aussi. Et tout ça sur une partie, comme je le disais en début d'interview, qui est sans vis-à-vis et directement avec une belle vue et sur les environs proches, mais aussi sur les monts d'Auvergne à l'horizon. Voilà, pour la composition de l'hébergement. Et puis l'état d'esprit est un état d'esprit. Moi, j'aime bien tous les vieux meubles, les objets qui ont une âme. Donc, je suis fan d'upcycling. Donc, ça veut dire que je redonne vie, mon mari et moi, on redonne vie soit des matériaux de récup, soit des objets. La plupart du temps, on a essayé d'utiliser des choses qu'on avait déjà. Ça a été un vrai défi, ça. Ça continue puisqu'on rénove. J'ai rénové, moi, je suis plus sur tout ce qui est meubles. J'ai rénové quasiment tous les meubles. Et puis, dans les matériaux, on a utilisé des matériaux qui nous restaient de notre propre chantier ou des matériaux qu'on a récupérés. Ou pour certains, si on les a achetés, on les a achetés vraiment pas loin. Et puis après, il y a toute la logique, voilà, de tri de déchets, de récupération des eaux de pluie, à terme aussi d'utilisation du solaire. Il y a des choses qu'on développera à mesure. Donc, la plus écologique classique, on va dire, dans l'état d'esprit. Et puis, travailler en circuit court avec des fournisseurs, que ça soit de bouche, comme les artisans d'art aussi. Parce que moi, j'ai cette sensibilité-là également. Donc, dans la décoration, dans l'équipement de l'hébergement. Et puis, il y a un côté un peu rétro aussi qu'on va retrouver dans la déco, puisqu'il y a beaucoup de vieux mobilier, beaucoup de choses chinées. Et qui devrait avoir. Moi, j'aime bien ce côté Madeleine de Proust aussi dans les vieux objets. Donc retrouver, voilà, la pendule en formica qu'on avait peut-être chez la grand-mère. Mais voilà, qui fait partie d'un tout dans cette décoration-là. Voilà, des choses comme ça. Nous, dans notre région, là, on n'avait pas de financement sur la création d'hébergements. Type chambre d'hôte, en tout cas d'hébergement chez des privés actuellement. Donc, quoi qu'il en soit, même s'il y en avait eu, je ne sais pas si on y aurait eu recours, puisqu'on fait tous les travaux nous-mêmes.
D'accord.
J'ai un mari qui est très, très bricoleur, donc qui maîtrise quasiment tous les métiers du bâtiment. Ce qui fait qu'on a, même avec des subventions, il aurait fallu recourir à des professionnels pour toutes les phases de travaux. Et finalement, nous, avec un budget assez raisonnable, et puis cet esprit aussi de récupérer, de chiner, on arrive à proposer un hébergement avec un investissement pour nous qui est moindre, qui est un investissement plus en huile de coude, si je peux me permettre, financier, même s'il faut toujours acheter des matériaux, voilà, hein, type la plomberie, la robinetterie, des choses qu'on ne peut pas toujours tout prendre d'occasion, on a essayé au maximum. Donc les partenaires sont plus des aides techniques, telles que l'office de tourisme ou la chambre de commerce, qui m'aident, moi, sur le montage du projet. Mmh. Et si je ne me trompe pas, les trois conseils, puisque c'était ta dernière question.
Voilà.
Alors, les trois conseils pour l'ouverture d'une chambre d'hôte éco-friendly. Alors, je vais pas, j'ai pas encore ouvert, hein, donc j'ai pas beaucoup de recul, mais sur le projet tel que je l'ai mené jusqu'à aujourd'hui, moi, ce qui nous a guidé, nous, c'est de faire preuve de bon sens. Déjà, de bon sens dans l'ouverture d'esprit pour avoir un constat de la demande et de l'offre, et de se dire, voilà, les gens aimeraient peut-être ça, mais ça, dans l'offre, ça n'existe peut-être pas complètement. Moi, je suis à 15 minutes des premiers commerces. On est dans un petit hameau qui est un peu isolé. C'était pour moi inconcevable de ne pas proposer de cuisine, d'autant que je m'adresse à une clientèle familiale en grande partie. Des gens qui vont peut-être arriver avec des jeunes enfants qui auront faim, redescendre au restaurant ou redescendre faire les courses, c'est aberrant et c'est des déplacements en plus. Donc voilà, à la chambre d'hôte, je rajoute une cuisine. C'est du bon sens. Mmh. Après, le bon sens, c'est aussi de faire appel à sa créativité. Si on ne peut pas faire d'une manière, ben on essaye de faire d'une autre. Et on n'essaye pas forcément toujours de trouver des solutions externes, mais on essaie de les trouver dans nos propres ressources à nous, créatives ou matérielles, voilà. Donc, le premier conseil, faire preuve de bon sens. Le deuxième, je dirais, c'est s'intéresser à son environnement, donc connaître et sa région, mais aussi son potentiel, que ce soit en termes de partenaires, de fournisseurs, de matériaux traditionnels, d'histoire aussi, puisque bon, moi, je suis quand même guide aussi, conférencier, pour une part de mon activité passée et actuelle. Donc, je m'intéresse bien sûr à l'histoire et au patrimoine. Donc, s'intéresser à son environnement et le connaître. Et puis, le troisième, c'est avoir envie de transmettre. C'est, pour moi, ce type d'hébergement-là, c'est plus qu'un hébergement. C'est aussi, on propose une expérience aux gens et on leur propose une rencontre. Donc, il faut être prêt à accueillir ces personnes-là et à les conseiller, à les coacher un petit peu et à avoir, à se donner les outils pour transmettre ce qu'on a envie de leur transmettre.
Voilà. Oui, d'accord. C'est, je pense que ces trois conseils sont une base solide pour amorcer un projet d'hébergement écologique, en effet. Donc, outre l'accueil en hébergement écologique, tu souhaites organiser des visites sous l'angle écotouristique de ta région. Est-ce que tu pourrais nous décrire ta vision de ces écotours ? Quelles seraient les balades possibles que tu pourrais faire depuis chez toi ? Quel est ce projet de réalisation de visites écotouristiques ?
Alors, ce projet part aussi d'un constat de mon métier de guide, puisque on constate souvent que beaucoup de personnes se détournent en fait et du patrimoine peut-être, ou en tout cas du fait d'être accompagnées pour découvrir un patrimoine ou un territoire tout court. Donc forcément, ça induit à la remise en question. On se dit qu'il faut peut-être envisager le métier autrement, les propositions autrement. Ce que moi, j'avais déjà eu l'occasion de tester dans mon expérience professionnelle, et que j'ai poussé un peu plus loin, on va dire, dans les tests d'activité, puisque je suis en couveuse d'entreprise depuis un an et demi. Et en montant mon projet d'hébergement, j'ai testé, selon les opportunités que j'avais, des visites guidées sous forme d'expériences un petit peu différentes. L'idée est souvent d'allier le patrimoine avec autre chose, puisque quand on découvre un territoire, en général, en tant que touriste, on ne va pas se contenter d'aller visiter le château, l'église ou le petit village typique, mais on va aussi vouloir comprendre le paysage qu'on voit autour de nous et on va vouloir peut-être aussi être guidé pour goûter et comprendre les produits locaux et en tout cas, qu'est-ce que c'est qu'un terroir, pourquoi est-ce ici on cultive la vigne par exemple, ce qui est plus très connu aujourd'hui et pourtant notre région était la deuxième région productrice de vin au Moyen-Âge après le Languedoc par exemple. Donc d'où ça vient culturellement et où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire que jusqu'au producteur vers qui je peux emmener le visiteur pour qu'il explique son métier et goûter son vin. Donc c'est l'idée d'allier souvent des choses qu'on n'allie pas toujours. Par exemple, cet été, j'ai proposé la découverte privative d'une abbaye romane dans son jus qui est magnifique, pas très très connue à 20 minutes de chez moi. Mm-hmm. Je le proposais à l'heure de l'apéritif, donc à 18h, en soirée d'été, donc avec des ambiances un peu particulières aussi au niveau de la lumière. Et après une visite qui durait selon les personnes, là je m'adapte aussi complètement, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans du formatage, je ne dis pas la visite dure 45 minutes. Si elle doit durer une demi-heure, elle dure une demi-heure, si elle dure une heure, elle dure une heure. Et puis on adapte son discours aux personnes et à leur intérêt. Donc les groupes sont toujours petits, maximum 12 personnes et les visites se sont terminées là par une dégustation de produits locaux, mais des produits locaux qui sont sourcés, c'est-à-dire que moi je suis allée les chercher auprès du producteur et le producteur il était de la commune. Le viticulteur était d'un peu plus loin, mais le producteur pour la dégustation de charcuterie par exemple était vraiment de la commune, un producteur bio qui a une très bonne démarche. Donc voilà, l'idée c'est aussi vraiment de travailler en circuit court et de proposer des moments qui peuvent sembler un peu privatisés aux gens, comme s'ils avaient la chance de suivre quelque chose qu'ils ne pourraient pas faire sans le guide, en fait. Voilà, ça, c'est un exemple.
C'est un moment de partage assez exclusif. Ils sont dans un véritable échange.
C'est ça. Ça peut aussi se passer sur place. L'idée de l'hébergement, c'est aussi de pouvoir proposer des choses sans déplacement. Des ateliers de dégustation ou des ateliers explicatifs où on va décrypter le lieu dans lequel est situé l'hébergement, par exemple le paysage qu'il y a autour, que moi j'amène de la dégustation de produits et que j'explique ces produits. Souvent, comme j'ai une petite dose d'humour quand même, je mets beaucoup de jeu aussi dans ce que je propose, ce qui fait que les choses sont moins... Il y a moins une barrière entre le guide et ses visiteurs et on est plus dans l'échange. On retient mieux souvent aussi parce qu'on manipule des petites cartes, des petites devinettes, des personnages, des choses comme ça. Ça peut se passer sur place, des ateliers dégustation de produits locaux. J'ai fait ça avec des ateliers fromage d'Auvergne, parce qu'on est très bien placé quand même pour ça. Et oui. Des balades, des petites balades qui sont autour du village. On essaye aussi de limiter les déplacements et de se dire qu'il y a toujours des choses à découvrir sur place. J'aime bien cette idée-là. Donc, ça peut être de 2 heures à une journée, hein, les expériences. Et puis, très à la carte aussi, en fonction des sensibilités des personnes.
Oui, est-ce que, enfin, par rapport à tout ce que tu viens de dire, c'est que dans le slow tourisme, il y a vraiment cette notion de convivialité qui est importante pour la relation au territoire, aux populations locales. Je trouve que c'est une valeur en plus qu'on apporte au souvenir des vacances.
Oui, c'est exactement ça. Si on pouvait utiliser le terme d'authenticité sans qu'il soit galvaudé comme il l'est,
oui.
Eh bien, ça serait ça, finalement. C'est quelque chose de simple, des rapports qui sont simples avec les gens, honnêtes, et où on va amener ce plus convivialité. Alors, bien sûr, il y a toujours un rapport marchand, puisqu'on les gens payent ces prestations, mais pas que. Voilà.
Et donc, l'Auvergne, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les atouts de ce territoire? Quelle saison recommanderais-tu pour venir passer quelques jours? Et est-ce qu'il y aurait éventuellement des sites incontournables en Auvergne?
En tout cas, ici, on a des belles montagnes, ça c'est sûr. On a des paysages plutôt ouverts. Cette notion de grands espaces, elle revient souvent quand on parle de notre région. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'apaisant. Mmh. Moi, c'est ce que j'aime bien. Il y a aussi ces paysages volcaniques qui sont assez uniques finalement, hein, puisqu'on a un volcanisme qui s'étale de moins 13 millions d'années à 6700 ans. Donc, avec des formes et une variété de paysages qui est très importante et très riche. Que ça soit sur l'aspect vraiment plus esthétique comme l'aspect naturaliste, hein, et géologique. Et puis, bien sûr, il y a une culture qui est assez préservée, que ce soit sur les villages traditionnels, l'habitat en pierre, le patrimoine, bien sûr. Et puis, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est ce que j'essaye de faire ressortir dans les expériences que je propose, ou en tout cas l'état d'esprit que je souhaite donner à mon lieu. C'est cette culture auvergnate, qui est une culture plutôt modeste au départ. C'était des gens plutôt simples, parfois même isolés, hein, dans des vallées. Et ce bon sens paysan, finalement, qui s'est conservé, bon gré mal gré, bien sûr, hein, mais l'état d'esprit, en tout cas, moi, jusqu'à moi, il est venu de faire preuve de bon sens et de simplicité. Et en fait, ces valeurs-là, je trouve, rejoignent énormément les valeurs actuelles. Les valeurs qui sont, par exemple, de l'anti-gaspillage, des circuits courts, de faire avec ce qu'on a. Moi, j'aime bien faire le pont entre cette culture auvergnate qui nous a laissé un héritage et finalement quelque chose qu'on redécouvre aujourd'hui, mais qui existait déjà dans les cultures traditionnelles.
Et donc, pour toi, le slow tourisme se marie parfaitement avec la région de l'Auvergne?
Et oui, forcément, puisque même si, comme partout, nous, la population, elle, plus ça va, plus elle se concentre dans les agglomérations. Mmh. Alors quand, comme nous, nous, on est à 20 minutes hein, de la première petite ville, qui est Brioude, qui est une petite ville, mais pas une ville minuscule non plus, on se retrouve dans des territoires qui sont certes encore habités, mais avec une densité de population qui est plutôt faible. On a un peu l'impression d'être... on a une forme de liberté, en fait, une sensation de liberté qui est toujours présente et d'opportunité de faire plein de choses. Donc pour le slow tourisme, je trouve que c'est bien. Et puis les paysages aussi, comme j'évoquais tout à l'heure, cette notion de grands espaces, ces vues qui se dégagent, qui sont différentes à chaque fois, les lumières, c'est plutôt assez reposant, en fait. Donc, bien sûr, c'est un territoire qui, sans parler des produits, des bons produits, voilà, qui s'adapte tout à fait à ce que moi j'ai envie de proposer, oui. Et puis, pour les sites incontournables, si on devait parler d'un élément incontournable, peut-être que ça serait, pour moi, les paysages volcaniques, parce que c'est vraiment ce qui est le plus identitaire, spécifique, on va dire, à notre territoire au sens large.
Le plus insolite aussi dans les paysages peut-être qu'on peut voir
oui, voilà.
En France.
Ça, c'est unique en Europe. La chaîne des Puits a eu le label patrimoine mondial de l'UNESCO il y a quelques mois. Et
d'accord.
C'est logique hein, parce que ce sont des paysages qui sont pour certains assez uniques hein, au niveau européen, voire même mondial pour leur type géologique.
Eh bien, merci Jeannette pour toutes ces informations et pour avoir pris le temps de nous décrire ton activité et ton projet en Auvergne. Je te dis donc à très bientôt, probablement.
Merci. Merci de cet accueil et de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur ce projet qui me tient à cœur.